Au moins, j'arrête là.
Non, tu vas pas arrêter acte 1, scène 1. T'aimes pas le théâtre, en fait.
Je m'ennuie un peu, je fais un peu chier.
Levée de rideau. Mise en scène par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Déjà, un spectateur, c'est pas beaucoup. Si en plus il dort...
Bonjour, bonjour à tous. Ça vous fait rire, Grégoire?
Ah,
si en
beaucoup.
Plus il dort, vous avez vécu ça, on sent le vécu. Hein.
Oui, et même parfois avec des personnes que l'on connaît dans la salle.
C'est encore plus dérangeant.
Alors, ou vexant, comme on veut.
Alors bonjour, bonjour à tous. Je suis, vous l'avez compris, avec Grégoire Robert, que nous connaissons bien à Radio Alliance Plus. Ça fait des années maintenant, Grégoire. En tant qu'auteur, en tant que comédien, metteur en scène... Depuis 3 ans bientôt, directeur d'un théâtre, l'Optimiste à Avignon. Vous avez dit que ça n'avait pas trop changé parce que vous connaissiez tout un peu du mécanisme.
Oui, quand on est dans le métier depuis pas mal d'années, à s'occuper de compagnies, on n'est pas et avoir fréquenté beaucoup de théâtres en France et notamment dans la région.
Et en Navarre
également. Voilà, on sait un petit peu comment ça fonctionne.
Alors, nous sommes en fin d'année 2024. Vous pourrez écouter cette émission donc fin 2024, début 2025, et puis en podcast sur notre site. Et Grégoire, vous aviez envie, parce qu'on se rencontre tous les ans pour Avignon, et pour aussi Ménage, le festival Ménage.
Scène de Ménage.
Scène de Ménage, pour d'autres choses. Et vous aviez envie, nous avions envie ensemble de parler un petit peu du monde du théâtre. Et nous avons intitulé cette émission « Un regard sur 30 ans de théâtre ». Donc, si vous avez commencé à 30 ans, vous frôlez les 60 ans.
C'est à peu près ça, oui.
C'est ça.
Et ce qui est amusant, c'est qu'à chaque fois, on se renouvelle et on redémarre. J'avais 10 ans de théâtre à Paris quand je suis arrivé dans le Sud. Mmh. Et en fait, je suis reparti à zéro complètement. Parce que, évidemment, quand je suis arrivé à Nîmes, personne ne me connaissait. Et ils sont encore trop nombreux.
Donc là, vous venez d'Avignon pour nous parler, non pas du Festival d'Avignon, bien que c'est un objectif important, puisque tous les ans, en juillet...
Je ne sais pas si c'est un objectif, mais c'est une étape importante, effectivement.
Une étape importante. Et pour parler de théâtre, il y a 3 axes. Hein. On pourrait penser à l'artistique en premier. On va voir que ce n'est pas toujours le cas. L'humain. Mais en fait, ce qui prime peut-être, c'est l'axe économique. Et moi, j'ai l'impression que c'est plus un peu toutes ces relations. Et vous faites un peu diversion en étant un peu partout, non? Et que vous avez peut-être du mal à vous localiser, c'est ce qui crée peut-être les difficultés, les déceptions, les désillusions. Mais ce n'est pas une émission triste.
Ce n'est pas du tout une émission triste, au contraire.
Ni polémique.
Non, surtout pas. Non, c'est vrai que ça, à 30 ans de métier, en étant un peu un franc-tireur comme je le suis, à toucher à beaucoup d'univers, toujours théatral. Hein, ouais. Je suis resté dans le théâtre en 30
directrice.
Ans. Ah oui, très nettement, le rapport au public et à la scène. Mais effectivement, 30 ans, on est un parcours qui est jalonné de belles rencontres. C'est surtout celle-là qu'il faut retenir.
Oui.
Mais même dans les belles rencontres, ça peut se transformer parfois en déception. Et j'en connais plusieurs, notamment dans la région, de trahison même.
On peut employer,
dès qu'on touche à l'humain, la trahison est très vite. C'est comme une relation amoureuse de toute façon.
Donc, c'est une lutte d'égo, peut-être encore plus développée chez ceux qu'on appelle les artistes.
Alors j'avais coutume de dire, et je pense que c'est assez juste, qu'une pièce de théâtre, c'est un mélange d'affect, d'égo et de névrose. Et que quand la mayonnaise prend, c'est presque un miracle d'une certaine manière, parce qu'effectivement, et je parle bien des miennes également, hein, des névroses, etc. On est tous dans le même bateau. Et il faut quand même que tout le monde arrive à avancer en même temps vers un objectif commun, voire collectif, et que c'est pas toujours gagné, surtout quand on est un peu en tête de proue, ce qui est mon cas, puisque généralement, c'est les pièces que j'ai écrites, que l'on monte, pas toujours cela dit. Hein,
oui, parce qu'à l'Optimiste en juillet 2024...
à l'Optimiste, c'est encore autre chose, parce qu'effectivement, c'est une programmation de festival. Et en plus, je ne suis pas seul à diriger le théâtre. On est 3 artistes associés et j'ai pas toujours, ça n'a pas toujours été le cas, mais là, je me sens très bien entouré.
Bon, et bien tant mieux, parce que je pense si... Enfin, moi, j'aimerais plus parler de l'humain, mais vous m'avez bien signalé que ça ramène à l'économique, parce que vous êtes passionné. Les artistes, on peut supposer qu'ils sont tous passionnés. Mais vous, en 30 ans, vous avez vu une évolution Et quand les jeunes arrivent, c'est pas être un vieil aigri, mais vous voyez que le monde a changé.
Alors, l'aigreur, ça, c'est un mot que je bannis de mon, de mon vocabulaire. Mais effectivement, ce que je remarque aujourd'hui, et c'est dans toutes les discussions qu'on peut avoir, avant, il y avait une adhésion juste à un projet. On avait l'envie, la passion de ce métier. On voulait monter sur scène, on voulait aller se défouler.
Le point de départ.
Et puis partager quelque chose avec le public et avec ses partenaires aussi, bien sûr. Et je remarque aujourd'hui que pour beaucoup de jeunes que je côtoie, ceux qui ont d'ailleurs une belle formation, donc que ce soit le conservatoire ou des cours qui soient privés ou non, mais de haute tenue, on n'est plus tout à fait dans le projet artistique qui prime, c'est les conditions financières, c'est la recherche obligatoire, ce qui n'a jamais été moi mon cas, de subventions. C'est comme si on n'existait pas en tant qu'artiste sans subventions, sans le soutien matériel d'une institution. C'est quelque chose qui m'a toujours dérangé, sauf que je ne crache absolument pas déjà parce qu'avec la compagnie des Sans-Têtes sous l'égide du président Alain Norbert Belloc, on a déjà touché des subventions et qu'en aucun cas on les refuse, mais ça ne doit pas être l'élément déclencheur.
Et puis il y a tout de même ce mot qui me trotte dans la tête depuis le début de notre conversation, c'est que c'est peut-être plus difficile actuellement de vivre du théâtre. On parle très souvent de la situation des intermittents. Donc vous situez comment ?
Mais par rapport à l'intermittence, j'ai un discours qui est 100% entre guillemets militant. Je suis pas toujours militant, mais là j'aime pas le mot statut, mais enfin en tout cas je trouve que c'est un système d'indemnisation qu'il faut absolument maintenir. Quand on réalise pas, je pense que ceux qui s'attaquent à l'intermittence, notamment à certains politiques, ne réalisent pas l'impact que ça a au sein de la société. Et que effectivement ça doit avoir un coût, ça je ne peux pas le nier, à mon avis qui est surestimé dans les chiffres qui ont été annoncés, parce qu'on parle de plusieurs milliards ça c'est complètement faux. Mais il faut voir l'impact que ça a sur les commerces, notamment la restauration. Et si vous enlevez aujourd'hui, d'ici un an ou deux, l'intermittence, bon, bien évidemment il y aura toujours des comédiens qui arriveront à se recycler, il y en a beaucoup qui resteront dans une misère et une précarité nettement supérieure, mais c'est surtout que au niveau des spectacles qui vont être proposés, un, vous aurez beaucoup moins de choix. Deux, ça sera que du théâtre amateur pour faire vivre les petits théâtres qui existent aujourd'hui, un peu alternatifs, et il y en a dans toutes les villes à peu de choses près. Et évidemment, c'est rentrer dans le système de faire la part belle, juste ceux qui vont rester, c'est ceux qui sont déjà importants et qui ont déjà un nom, si vous préférez.
Oui, ça pose bien le problème, moi j'allais dire, entre Paris et la province, et puis entre les grands théâtres, les grands noms. Et on sait très bien que beaucoup de spectateurs vont pour les noms.
Ça existe toujours. Mais si vous regardez, même dans une ville comme Nîmes, on peut parler d'Avignon, mais il y en a plein dans toute la France, des villes, on va dire, de taille plus ou moins moyenne, vous avez une offre théâtrale et culturelle, une diversité. Que ce soit, on peut aller voir une pièce d'un CDN comme une comédie plus ou moins haut de gamme ou bas de gamme. Il y a des spectacles de danse, il y a plein d'autres choses. Si on enlève l'intermittence, vous n'aurez plus du tout cette offre. Voilà.
Mais vous n'avez pas fait fortune dans le théâtre. vous arrivez à vivre correctement.
Ma seule victoire, si on veut parler en ce terme, c'est de 30 ans après d'être toujours debout et de continuer en toute liberté. C'est quand même une liberté durement acquise, effectivement. Mais comme la liberté est un luxe, on va dire que je vis dans le luxe.
Qui vous a desservi, certainement.
Disons que je me suis ruiné. J'ai tout l'argent que j'ai pu éventuellement gagner soit avec mes droits d'auteur, soit avec mes cachets a été grosso modo réinvesti dans mes projets, etc. Parfois juste pour payer mes partenaires avant de me payer moi-même. Donc effectivement, je ne gagne pas bien ma vie. Oui, c'est vrai que je pense qu'il y a un petit malentendu à mon égard, parce que comme je suis un peu le moteur des projets, notamment ceux que j'ai écrits, on me voit comme un producteur, ce qui est le cas, puisque j'ai quand même une compagnie qui produit des spectacles, mais à titre personnel, je suis pas du tout producteur, enfin en tout cas pas intellectuellement.
Dans c'est votre
pas,
tête, oui.
Moi, si j'ai un producteur demain qui veut miser sur moi, je l'attends et les bras grands ouverts.
Alors on a l'impression tout de même que c'est un peu nœud de vipère, c'est peut-être un peu dur, mais qu'il y a tout de même des relations humaines compliquées. Et vous avez choisi, je ne sais pas si c'est lié, vous avez choisi, on ne va pas parler de monstres, on est prex.
J'en ai connu.
Vous en avez
des
connu.
À des vrais monstres. Mais on est quand même dans un monde qui est censé un peu embellir la vie. On parle d'humanisme en permanence, on ne parle que de l'humain au théâtre.
Mais la violence, elle est là.
Et vous avez des comportements humains alors, qui sont dénoncés sur scène parfois, surtout quand c'est bien écrit, c'est chouette à voir. Mais on travaille avec certaines personnes qui sont des névrosées et qui sont d'une violence comportementale inouïe. Au-delà même des mouvements MeToo et autres, hein, je ne parle même pas de ce genre de propos.
Non, simplement de relations personnelles.
Très très compliqué.
Quand on est spectateur, on ne se rend pas compte de tout ça. Hein.
Heureusement
qu'on ne voit pas toutes ces coulisses. Et donc, si c'est un monde plus violent qu'on ne le pense, on va écouter Crips de Radiohead. Hein. Vous aimez bien mélanger dans vos spectacles aussi.
On retrouve cette musique dans le scapin que je viens de monter.
Sur Radio Alliance Plus, nous continuons avec Grégoire Robert et chers auditeurs, j'espère que vous suivez un peu le fil de notre pensée parce que le sujet est tellement vaste.
Il mériterait plusieurs émissions.
Plusieurs émissions ou alors de le structurer avec des exemples peut-être très précis parce qu'on a abordé tout de même Paris, la province, les grandes scènes, les petits théâtres, les intermittents, les producteurs. On n'a pas tellement parlé de l'artistique parce que vous êtes vous-même auteur. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une banalisation des sujets? Est-ce qu'on n'a pas un peu des pièces interchangeables?
Alors, je trouve que dans le monde de la comédie, énormément, vous avez des titres et des pièces interchangeables. Et ça m'a valu d'ailleurs, honnêtement, d'être parfois banni des quelques théâtres de comédie que je connais, parce que j'estime que le rôle d'un directeur de théâtre, mais d'abord d'un auteur, puisque ça part de là, d'un texte, c'est un peu d'élever le débat. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas s'empêcher de rire. Mmh. Moi, j'aime la comédie, même parfois la gaudriole et tout ce qu'on veut, et je n'ai aucun souci. Je suis un peu tout terrain de ce côté-là. Pour autant, effectivement, on oublie parfois complètement le côté artistique et on est dans une juste, bon, on va faire un produit, il faut que les gens se marrent, etc. Et vous avez des auteurs dont je connais les noms et je les donnerai pas, puisque j'ai lu leurs textes ou j'ai vu leurs pièces, mais qui recyclent même les mêmes gags, les mêmes phrases d'une pièce à l'autre. C'est hallucinant. Ça, et je trouve que c'est pas très digne pour moi.
Mais c'est pas très honnête par rapport aux spectateurs.
La responsabilité des directeurs de théâtre ou des programmateurs est importante, effectivement. des auteurs, bien évidemment. Les comédiens, à la limite, pour moi, ce sont les moins attaquables parce que bah, ils ont besoin de bouffer, ça c'est normal. Et ils jouent. Et puis, en tant que comédien, on s'amuse. Et en même temps, on s'amuse aussi en tant que comédien sur ce genre de pièce. Il ne faut pas non
mais
plus.
Mais est-ce qu'on est capable de tout faire ? Un tragédien peut faire de la comédie.
Ensuite, il y a juste. Faut déjà en avoir l'envie, l'état d'esprit, là. Et effectivement, il faut avoir aussi une souplesse de jeu. Oui. Qu'on n'a pas toujours.
Le talent ? Non, parce qu'on peut être très bon dans un genre et très mauvais dans un autre. Mais comme vous dites, moi je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut en avoir envie. Tout le monde se dit ça, j'ai pas envie.
Il faut savoir dire non, mais c'est avec le temps et avec l'âge qu'on apprend à dire non. Cela dit, peut-être que, on parlait de la jeunesse déjà, ils apprennent peut-être plus facilement à dire non aujourd'hui, ce qui est finalement, c'est peut-être pas si mal. Non, ce que je voulais dire, parce qu'on peut revenir ensuite sur les comédiens, mais c'est le public aussi irresponsable.
Ouais,
moi, quand je vois quand le public se précipite, remplit les salles sur des pièces qui ne sont que de la facilité, j'avoue, ça m'attriste, en fait, tout simplement.
Mais c'est la société de la consommation, la société de divertissement.
Oui,
la...
oui mais vous avez tellement de belles pièces bien écrites. Et je ne parle pas des miennes, hein, parce que je n'ai pas écrit que des chefs-d'œuvre. Loin de là, je le sais. Et la mayonnaise n'a pas toujours pris. Mais pour autant... vous avez plein de belles pièces, et je ne parle même pas du répertoire, des pièces contemporaines qui, ben, oui, il y a un vrai auteur derrière, et oui, ça fait rire, et oui, ça peut être grinçant, et oui, c'est, y a un vrai texte, tout simplement, et le public qui a besoin de rire, il irait voir aussi bien une comédie qui est bien écrite, si on lui proposait. Voilà, tout simplement.
Mais on peut peut-être pas enchaîner deux pièces tragiques ou deux pièces comiques. Si deux comiques, on peut enchaîner. Enfin, je parle en tant que spectatrice.
Oui, je pense que c'est ça dépend. Ensuite, c'est vrai qu'à Avignon, vous avez durant le festival, vous avez quand même que ce soit des journalistes comme vous ou des publics qui va voir deux, trois pièces par jour. Et parfois, c'est quatre ou cinq. Mais effectivement, enchaîner Phèdre de Racine et le Tartuffe, le Tartuffe peut avoir peut-être un peu plus d'humour, mais ça n'empêche, je sais pas.
Ouais. Mais est-ce que parce que là, vous parlez des classiques, j'ai vu votre Tartuffe, Scapin, je ne l'ai pas encore vu, c'est remanié à une mode contemporaine, alors que le texte est toujours...
Le texte de Molière, un petit peu amputé, certes, mais l'esprit est bien là.
Moi, je me pose souvent la question, quel est la... du talent, mais... Il y a la mise en scène. Est-ce que le théâtre, depuis 30 ans, justement, n'a pas évolué beaucoup, et très bien d'ailleurs, au niveau de la mise en scène ? C'est pas votre ressenti, vous ? Enfin,
Je pense que ça a évolué d'une certaine manière, mais simplement parce que les noms ont changé. C'est-à-dire que vous avez... là, il y a une toute nouvelle jeune génération. C'est plus un... et ils vont faire des choses... différentes, forcément, plus en rapport avec l'époque, mais je pense que ça a toujours fonctionné comme ça. Bon, cela dit, si on revient il y a 150 ans ou 200 ans en arrière, il n'y a même pas de metteur en scène.
Ouais.
Donc, mais c'est... ça a évolué. Non, ce qui ne change pas, c'est finalement le fonctionnement, le système. On est dans un système où ceux qui sortent du lot sont ceux qui savent s'entourer et ceux qui savent faire du relationnel, quasiment de la politique. Moi qui suis dans ce métier depuis 30 ans en franc-tireur, en toute indépendance, beaucoup trop, je pense, honnêtement.
Ouais.
C'est ma grosse faiblesse. Je ne suis que ce que je renvoie. Il n'y a même pas un regret, c'est un constat plus qu'autre chose que je suis en train de dire.
Je crois que c'est la 34e
pièce. Oui,
année,
je suis en train de terminer ma 34e pièce.
Vous en avez
pièce.
Joué beaucoup.
Vous avez
votre théâtre.
Je ne suis pas dans les réseaux de diffusion. J'ai eu quelques portes qui sont ouvertes à Paris lorsque j'y étais, il y a 20 ans. Et j'ai quitté Paris et en fait tout s'est arrêté du jour au lendemain. Mais je ne suis pas quelqu'un qui suis très doué dans ce relationnel. Je reconnais, je pense pas d'être quelqu'un de désagréable et de méchant. Mais je nourrir une relation, faire ce qu'on appelle la relation publique, c'est pas du tout mon fort. Je m'exprime le mieux sur scène, dans ce que j'écris et dans ce que je joue.
Et c'est un peu triste parce que Vous pouvez, je parle généralement, vous pouvez avoir un excellent projet, beaucoup de talent, et puis ne pas savoir le mettre en valeur. Donc,
Mais c'est le gros problème. C'est aussi ce qui fait que j'ai initié la plupart des projets, c'est que j'avais un texte dans lequel je croyais, je savais où je voulais l'amener. Ensuite, je me suis dit, je vais le monter par moi-même. Ce qui était faisable assez facilement. Finalement, il y a 30 ans, c'est comme ça que j'ai démarré. J'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué aujourd'hui parce que effectivement, l'économique prend la partie finance prend le pas sur toute autre considération.
Mais il y a toujours des vocations.
Mais bien évidemment.
Heureusement.
Non. Bien évidemment. Mais quand on parle d'évolution, oui, le monde du théâtre évolue. Vous voyez, les programmations à Paris aujourd'hui ne sont plus celles qu'il y avait il y a 30 ans. Ils sont un peu aligné sur ce qui se fait à Avignon. Vous avez telle pièce, même à succès, qui va jouer à 18h le mercredi et puis qui va juste être là à 20h le samedi. C'est plus... Alors, vous avez aussi des pièces, évidemment, comme toujours, qui se jouent du mardi, même au dimanche, en matinée, etc. Mais vous avez aussi beaucoup de ce qu'on appelle de contre-programmation et c'est beaucoup dispersé.
C'est peut-être un peu idiot, mais avant, quand on allait au théâtre, il y a 30 ans, on s'habillait pour aller au théâtre.
Ah,
c'était
oui.
une soirée.
C'est vrai.
C'était une mise en condition, quelque part.
Oui.
Et je ne dis pas que c'était bien, mais maintenant, le théâtre, c'est autre chose. Et au bout de 30 ans de théâtre, c'est vrai qu'on peut s'interroger, même sur soi-même, sur son propre comportement. Mais,
c'est aussi que le théâtre s'est démocratisé. Et là, c'est plutôt quelque chose de positif. Moi, j'ai encore eu des gens, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une dizaine d'années, ça m'avait marqué, quelqu'un qui m'a dit, qui faisait un métier pas le plus élevé socialement, mais on s'en fout, mais qui m'a dit, je ne vais pas au théâtre, j'ai peur de ne pas comprendre. Ouais. Alors que, même Molière, on s'amuse dans Molière et on comprend tout.
Mais c'est peut-être pour ça qu'il y a des pièces recyclées, parce que on en a vu une où on s'est bien amusé, on va revoir l'autre, on attend toujours la même chose.
Y a un peu de ça, mais c'est pour ça que c'est de la responsabilité de tous ceux qui font le théâtre, pour moi, de tirer vers le haut.
Alors, en vous écoutant, on a l'impression que vous êtes un peu le papy. 60 ans, c'est terrible, c'est la pente descendante. Mais je dis ça parce que vous avez choisi un groupe, vous avez dit le papy du rock.
Les papys de l'électro. C'est une plaisanterie. Non, c'est très juste, c'est vrai. Ah, mais c'est mon groupe fétiche, Yellow, pour ceux qui connaissent.
Et donc, vous avez choisi la...
Habanera.
Habanera. Donc voilà, les papys du rock, choisis par le papy du...
les papys du rock, je les ai vus sur scène, c'était les Rolling Stones. Là, c'est les papys de l'électro.
De l'électro, pardon.
Before the revolution, the Carlos Romero combo placed the symphony for Latin piano, hopping chords and blasting bullets. La Habanera dances in the streets, and like every night, Pedro Camacho sells peanuts outside the Tropicana Club. We'll be right back.
Eh bien, nous voilà arrivés à la fin de cette émission. Donc, 28 minutes, à peu près 24 minutes donc, de discussion. J'espère que nos auditeurs ont suivi un peu notre discussion. On a essayé de la structurer en disant les difficultés, mais en même temps aussi les grandes espérances tout de même. Puis cette passion permanente, comment vous
c'est la passion est au cœur honnêtement de ma ville. Et je vais même, je vais être très, très personnel dans ce que je vais raconter, mais j'ai écouté quelques amis quand j'ai eu un peu de sous à une époque et j'ai acheté ma maison. Sauf que j'ai acheté une maison dans un village du Gard et complètement une grande maison en fait, trop grande pour un homme seul sans doute, même si j'avais ma fille petite à l'époque qui venait souvent, et totalement déconnecté de mon activité. Mmh. Eh bien, aujourd'hui, je rentre pas dans le détail, mais j'ai dit tout à l'heure que j'étais ruiné, donc voilà. Le truc, c'est que si demain je peux racheter un espace de vie, ça sera un théâtre avec des appartements au-dessus. Je ne peux pas déconnecter ma vie privée de ma vie publique, j'aime pas le mot, mais en tout cas de mon activité.
Du théâtre, de la création, de l'art.
Oui, c'est cette passion pour moi, elle est au cœur de tout. J'ai découvert le théâtre, jeune, comme beaucoup, l'école, j'ai même vu mon père jouer, c'est peut-être lui qui m'a donné d'ailleurs parce qu'il était très bon d'ailleurs sur scène, amateur mais excellent, et il avait même été inscrit au cours Simon, il aurait fait partie de la génération des Belmondo, des Rochefort, etc. Ça aurait été amusant, c'est au cœur de mon engagement, et
Il y a
parfois, j'entends des gens qui ne vivent que de subventions, qui vont avec des pincettes sur les projets, qui ne savent pas trop, etc. Ou qui viennent vous faire la leçon. Pour certains d'entre eux, ça j'en suis convaincu. Mais j'estime que moi qui ai mis tout mon engagement, et financier notamment, mais mon âme en fait, dans le théâtre, je suis preneur de tous les conseils qu'il faut. Mais alors, les donneurs de leçons, non merci.
Donc, ce n'était pas une leçon, c'était pas une polémique, c'était un dialogue très agréable. Et j'espère que nous nous reverrons pour d'autres projets théâtraux, artistiques et pour
C'est en projet déjà, bien évidemment.
Merci Grégoire et à bientôt.
Merci Sylviane.